Vous écoutez IC Squatel. Bonjour, bonsoir, vous êtes bien à l'émission Ainsi Squat-t-elle sur les ondes de CKIA FM. Ce soir, on est en compagnie de nous trois plus une personne. Donc, Tiffen, salut.
Salut.
Hélène, de retour depuis un bout. Salut Hélène.
Allô.
Et moi-même, Marie, à la mise en onde. Et puis aussi, on a un petit assistant.
Carlos.
Carlos, qu'on initie, qui a quelques mois.
Mais, deux mois.
Il commence très tôt dans la radio, c'est ça.
Et dans une émission féministe.
Et dans une émission féministe non mixte, il est fort. Il a accès à ça. Donc, ce soir, on va vous parler du Black Feminism. On avait envie de faire une émission thématique juste là-dessus. Puis, donc, on va l'aborder de plusieurs manières. Et c'est ça. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu ce dont vous allez parler? Puisque finalement, moi, je suis surtout pour la sélection musicale.
Oui, ben en fait, Tiffen et moi, on va parler du Black Feminism, mais depuis ses origines jusqu'à nos jours, ce qui fait que c'est un spectre très large à explorer. Donc moi, je vais commencer un peu avec l'historique. Tiffen va continuer avec le féminisme d'ailleurs contemporain, Black Feminism, je crois.
Oui, c'est ça. On va parler un petit peu du groupe qui s'appelle Inside, dont on a déjà parlé à IC Squat-t-elle. Puis aussi, je vais présenter un texte d'une féministe qui s'appelle Peggy McIntosh, qui a écrit un texte qu'on trouvait bien intéressant. Donc, voilà. Mais avant ça, je pense qu'on va commencer avec une contribution d'une émission féministe française.
Ben, oui, féministe et non raciste, en fait, surtout. Ben d'abord, on va mettre une musique. On va écouter, c'est une musique de Meufia. La chanson s'appelle Peuple Femme. Mais après, oui, on va écouter, en fait, une contribution suite à un film Vénus Noire dont vous avez sûrement entendu parler ou que vous êtes allé voir. Je suis allée le voir et personnellement, cette critique-là m'a fait énormément de bien parce que vu l'état dans lequel j'étais à la sortie, j'avais besoin de contenu. Puis là, c'est 10 points pour détruire ce film-là, disons-le clairement. Donc, on va entendre ça à la suite. Puis après, je présenterai un peu le groupe Case Rebelle, donc, qui fait une émission de révolutionnaires noirs. Donc, je vous le présenterai par la suite. Mais on part tout de suite avec Meufia.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Beur, acteur, chaîne de garde, cité Mofia, MLM, pour une nouvelle ère.
Oh yeah, oh yeah, peuple femme, prends vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
Et après le mouvement de libération des femmes, PNL, MLF 2000 encore s'unir pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Ah, comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stagnent. Convaincus, je revendique des principes plus terre à terre que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent, je me bats pour une nouvelle ère. Meufia, tout unis pour le même combat.
Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
MLF, nouvelle ère,
armée qui serait moins virulente, taille plus apaisée, posée. Chercher l'harmonie et l'équilibre entre l'homme et la femme.
Moi, tu trouves ça normal que chaque année 60 à 200 femmes meurent de violence
veux du galet, dis-moi toi. Comment tu réagis si je te dis que les Afghans sont privés de tous les droits et risquent le fouet, si elles n'obéissent pas à leur mari. Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont réels. Et si on dit rien, on fait rien.
On assiste à une merde universelle.
Je veux pas être complice
d'homicide,
d'hécatombe de supplice envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Meufia, pas en avant, vers une nouvelle ère.
MLF, une nouvelle ère, meufia, prends la relève. De nos jours, les droits de la femme sont bafoués. On trouve encore des femmes exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées. Partout dans le monde, les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire réfugier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition.
Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table.
Exceptionnellement, dans cette émission, Case Rebelle s'attarde sur un film actuellement à l'affiche, Vénus Noire d'Abdelatif Kechiche. Je suis allée le voir au cinéma avec un ami, on n'était que deux dans la salle, on a regardé le film en entier, malgré le dégoût et l'horreur qu'on a ressenti. Pour résumer, Vénus Noire raconte l'histoire de Sartieu Bartman, domestique d'un blanc africanaire, qu'il exhibe dans un spectacle en Afrique du Sud puis en Europe dans les années 1810. Le spectacle est celui d'une femme noire, exhibée en cage et quasiment nue, feignant la sauvagerie, et que le public a le droit de toucher. Le film raconte aussi l'histoire d'une femme battue, violée, prostituée de force et qui se détruit avec l'alcool. Le problème, c'est que le film est lui aussi l'exhibition d'une femme noire devant un public occidental. Ce n'est qu'une pauvre reconstitution, sans finesse, sans critique, et qui ne s'affranchit ni du racisme, ni du sexisme des clichés coloniaux. Alors pourquoi le film de Kechiche craint un mort en 10 points ? 1. Le spectacle s'appelait « Vénus au tantote » et reposait sur le cliché colonial de l'indigène noir sauvage au corps monstrueux. Et les yeux de l'Occident blanc se fixaient spécialement sur les fesses et les lèvres du sexe de Sartieu Bartman, partie de son corps jugée totalement disproportionnée. Sartieu Bartman était donc en même temps un objet exotique et un objet érotique. Dans son film, Abdelatif Kechiche s'appuie sur ce cliché colonial et satisfait aujourd'hui la curiosité du regard qu'il suscite. Il exhibe pendant près de 2 heures le corps du personnage et celui de l'actrice, filmé sous tous les angles. Et on verra tout. Le film raconte peut-être le spectacle, mais il le reproduit surtout. 2. Le film, c'est aussi une tension érotique permanente entre les personnages masculins et Sartieu Bartman, et aussi dans la façon dont elle est filmée. Tension qui joue avec le fantasme de soumission de la femme, et ici avec le fantasme du viol, ce qui est carrément odieux. Comment Kechiche peut-il focaliser la tension érotique sur le personnage de Sartieu Bartman dans un film sur l'oppression coloniale en plus ? Ignore-t-il que le regard occidental sur les femmes noires s'est construit avec le cliché qui les accuse d'être lubriques ? Cliché qui a servi à justifier et encourager les viols de femmes africaines colonisées et le viol systématique des esclaves noirs déportés. À aucun moment dans son film, Kechiche ne déconstruit les fantasmes érotiques autour des corps noirs. C'est un aspect central du sujet du film sur lequel il n'est absolument pas critique. 3. C'est une « Vénus » entre guillemets, soumise, silencieuse et passive que Kechiche présente. On entend peu sa voix, peu ce qu'elle ressent et encore moins ce qu'elle pense. Il y a 2 autres personnages noirs dans le film, 2 domestiques engagés par le maître de Sartieu Bartman pour s'occuper d'elle. À part quelques banalités, tous les 3 ne se parlent pas, rien. Spectacle du silence de noir sur la condition noire, de leur silence sur leur situation de colonisés, d'indigènes. Une des questions du film est bien celle dont la façon dont Sartieu Bartman a accepté tout ce qu'elle a subi, mais là le film fait trop peu de place à la subjectivité des colonisés et à leur résistance. 4. Les protagonistes blancs, eux, sont mis en concurrence dans la violence de leur comportement et de leurs propos, comme si la question était de savoir lequel était le plus méchant. Mais pour ne fâcher personne, Kechiche a dû trouver nécessaire de présenter de bons blancs, des hommes ou des femmes, qui interviennent et qui jugent indécent et immoral l'exhibition de Sartieu Bartman. Alors d'un côté, l'image des Blancs est sauvée, et de l'autre, la violence raciste n'est plus présentée que comme le sentiment d'une époque et de certaines personnes. 5. En fait, assez tôt dans le film, on assiste au procès fait au maître de Sartre Bartman par des intellectuels « amis » entre guillemets des Africains. La question est, Sartre Bartman est-elle libre ou contrainte de participer à ce spectacle de soumission? Joue-t-elle ou est-elle exploitée? Tout cela résonne évidemment avec le film lui-même. La critique de la représentation des Noirs, du corps noir et du spectacle qu'il utilise aurait dû être centrale. L'analyse des rapports raciaux dans l'industrie du spectacle aussi. Mais Kechiche n'y répond qu'avec un hyper-réalisme plat, consternant et blessant. 6. Au-delà du résultat du film, il y a le tournage. Quelle a été la place de l'actrice noire seule face aux autres acteurs et actrices blancs et aux équipes techniques? Comme Sartre Bartman dans le film, Yaïma Torres, c'est le nom de l'actrice, dit qu'elle joue, qu'elle est une actrice. Mais elle est là aussi en tant que corps et doit se plier aux exigences du spectacle, jouer l'animal dompté et chevauché. Yaïma Torres est cubaine, mais que pense-t-elle de la situation sociale des Noirs en France, de la place des Noirs et du corps noir à l'écran français et au cinéma français? Elle n'est pas une actrice professionnelle. Kechiche raconte l'avoir engagée pour son physique, sa ressemblance avec Sartre Bartman, pas pour son analyse politique du film alors. Et c'est même ça, en interview, il dit « C'est la légèreté avec laquelle Yaïma prend la vie qui a conforté mon choix. J'ai compris que je pourrais la pousser loin, dans l'émotion, sans qu'elle en soit meurtrie. » Comme ça, il est le seul à parler de son film. Son discours soi-disant antiraciste et antisexiste n'est ni concurrencé, ni contredit par celui d'une actrice noire. 7. Il existe des moments historiques saturés d'interdits de représentation. Mais là, rien n'est questionné, tout semble montrable. Kechiche et la presse répètent que « Vénus noire » est un film sur le regard, la différence et les limites de ce qu'on peut faire au nom de l'art. Argument banal et très faible, c'est ce qui pourrait se dire de 99% des films de cinéma. 8. Dans « Vénus noire », Kechiche est tellement convaincu de bien faire et de faire œuvre d'histoire qu'il ne s'embarrasse pas de la question du regard occidental. Il table sur le fait qu'un public blanc peut se poser devant le film sans problème, de manière distanciée, avec intérêt et en étant légèrement dérangé comme il l'imagine. Et pour finir, par éprouver de la pitié pour cette pauvre Sartre Bartman. Alors chacun fera comme si les clichés coloniaux et leur violence appartenaient au passé. Kechiche est d'origine tunisienne. Mais la représentation des Occidentaux et des femmes noires, on peut lire dans des interviews que cette question, il préfère laisser les intellectuels africains s'en occuper. Alors avec tout ça, il vient définitivement se placer parmi ceux dont l'Occident attend qu'il ou elle cautionne une violence de représentation et de traitement envers les colonisés et les descendants de colonisés. 9. Il ne se pose pas non plus la question du spectateur, de la spectatrice noire. Mais son film est violent. Au-delà de l'identification au personnage de Sartre Bartman, c'est aussi des Noirs et de la façon de les montrer et de les mettre en scène qu'il s'agit. Kechiche a utilisé, exhibé, érotisé dans un fantasme de soumission une femme noire pour un public occidental. C'est un traitement agressif qui vient alimenter la négrophobie française, historique et toujours actuelle. Dans Vénus Noire, il n'y a aucun discours, aucune analyse ou critique de la part d'Abdelatif Kechiche sur cette question de la représentation des Noirs en général et dans le cinéma français. 10. Le film se termine, avec mon ami on se regarde, consterné. On est resté parce qu'on était seul dans la salle. Il est clair qu'on n'aurait pas pu partager ce spectacle, ce regard où se mêlent sexisme et racisme avec un public blanc, parce qu'en plus, rencontrer ce regard une fois la lumière rallumée ou quotidiennement dans l'espace public ou ailleurs, c'est juste la réalité. Non, nous ne sommes ni des objets exotiques, divertissants ou érotiques, des objets exploitables à merci pour le spectacle ou toute autre production. Je pourrais encore continuer longtemps, mais là j'en ai dit bien assez pour expliquer que ce film craint à mort. Je suis allée le voir, j'en parle pendant 10 minutes, je crois que c'est suffisant. N'allez pas le voir. We'll be right back.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi Squat-elle. Puis là, on vient d'entendre une splendide, à mon sens, critique du film Vénus Noire. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir ou pas, ou en tout cas, mais je vous invite à ne pas aller le voir, comme l'a fait cette chroniqueuse de l'émission Case Rebelle. Donc Case Rebelle, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, c'est l'émission des révolutionnaires noirs qui diffuse des émissions sur leur site internet. L'adresse c'est case, donc CASES-rebelle au pluriel .org. Puis c'est ça, ils ont 11 émissions pour l'instant qui sont en ligne. Donc c'est un collectif, on n'a pas plus de détails sur qui ils sont, d'où ils, elles viennent. Ben, c'est d'Afrique et des diasporas en fait. Et puis ils ont une présentation, elles ont une présentation de leur collectif. Et j'avais envie de lire ici quelques phrases, puisqu'en fait c'est à peu près 3 pages de description, puis de ce qui les représente, puis de ce qu'ils et elles combattent. Et je trouvais ça intéressant pour positionner un petit peu l'émission. Voilà, donc ça commence par « Nous sommes sœurs et frères d'Afrique et des Antilles. Nous, afro-descendantes, nous définissons comme noirs. Noir est pas un des mots issus de la stigmatisation et de l'euphémisation. » Nous considérons que les peuples noirs d'Afrique et des diasporas ont tout intérêt à se reconnecter autour de luttes communes et à mettre en relation les nombreux foyers de colère et de résistance qui existent. Je vais un petit peu plus loin dans le texte. Le soi-disant sous-développement du Sud, de l'Afrique et de ses diasporas, résulte de l'organisation des échanges économiques mondiaux à l'avantage de l'Occident et au détriment des populations du reste du monde, entre guillemets. Les rapports inégalitaires, dits Nord-Sud, perdurent et continuent d'organiser l'appauvrissement du Sud. Coopération et aide humanitaire en sont également les outils. Et, plus loin dans le texte, qui va nous amener doucement vers la fin... Nous prônons une unité antisexiste débarrassée des comportements sexistes et homophobes d'où qu'ils aient été hérités. Notre lutte ne vaudra que si elle est menée par les femmes et les hommes. Nous méprisons les frères qui méprisent les sœurs au nom de pseudo-valeurs noires, africaines ou antillaises. Ce sexisme racialisé n'est qu'une excuse lamentable. Nous méprisons les discours homophobes. Nous méprisons les discours définissant l'homosexualité comme la maladie apportée par le blanc. Nous estimons qu'il est nécessaire de se réapproprier honnêtement les histoires des sexualités noires. Nous croyons aux alliances avec les peuples et les individus qui sont clairement débarrassés de la négrophobie. Nous croyons aux alliances avec les victimes de l'exploitation capitaliste de toute la planète, s'ils sont informés des histoires qui ont conditionné et conditionnent encore les rapports interraciaux. Nous soutenons et encourageons toute résistance, toute révolte contre l'hégémonie économique, culturelle, politique, blanche et occidentale. Nous ne prenons pas la guerre raciale, mais une guerre sociale. Donc ça, c'est
C'est vraiment bon.
Non, mais c'est... Et puis toutes ces... Enfin, pour l'instant, j'ai écouté 3-4 émissions. Donc comme je vous disais, il y en a 11. Et puis, il y a une très bonne sélection musicale. C'est vraiment bien construit. Il y a, par exemple, à partir des moitiés des émissions, il y a un discours... un dictionnaire de la négrophobie, pardon, donc avec les lettres ABC. Non, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Donc, je vous invite à écouter. Je rappelle le site, c'est case-rebelle.org. Et puis voilà. Et puis, peut-être aussi, si ça vous intéresse, il y a quelques vidéos qui ont été diffusées d'un autre collectif qui s'appelle le collectif contre la négrophobie. Donc, j'ai pas vraiment pu avoir plus d'informations jusqu'à aujourd'hui. Mais, là, il y a une vidéo qui circule à propos de la commémoration, de la journée de la commémoration contre l'abolition de l'esclavage en France, donc qui a eu lieu le 11 mai dernier. Il y avait tout un truc protocolaire au Jardin du Luxembourg à Paris. Et donc, ce collectif-là, contre la négrophobie, a été invité, a reçu des invitations et s'est rendu là-bas sur place avec leur t-shirt. Donc habillés en fait, et leurs t-shirts sur lesquels était marqué Brigade contre la négrophobie. Donc rien de plus, rien de moins. Et en fait, ils ont été clairement battus par la police, chassés et tout ça. Et donc après des négociations pour dire, là on porte juste un t-shirt. Donc finalement, au début, il y en a quelques-uns qui sont d'accord d'enlever leur t-shirt, mais ils se font clairement chasser. Donc c'est ça, il y a des actions intéressantes parce qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là en France, puis dans plein d'autres pays. Mais voilà, c'est les quelques ressources que vous pouvez consulter si vous êtes intéressé. On va poursuivre peut-être en musique avant de continuer. On va aller écouter Shifa, les flammes de la colère.
Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3. Vous êtes en compagnie de l'équipe d'Ainsi Squat-elle. Et notre émission aujourd'hui porte sur la question du racisme et plus spécifiquement sur le féminisme noir, donc mieux connu sous le nom de Black Feminism, parce que c'est un courant quand même qui s'est développé aux États-Unis, comme on va le voir tout de suite. Donc, moi et Tiffaine, on se propose de faire, comme je l'ai dit en introduction, un tour du spectre très large, tout ce que ça peut impliquer. Moi, je vais commencer vraiment par un historique qui remonte au 19e siècle. Donc, brève présentation, qu'est-ce que c'est le féminisme noir? Donc, c'est un mouvement féministe qui est né aux États-Unis dans les années 60-70. On se rappelle qu'à cette époque-là, c'est une période d'ébullition idéologique très forte, hein? Lutte pour les droits des Noirs, mouvement contre la guerre au Vietnam, féminisme, syndicalisme, etc., tout explose. Et c'est dans cette mouvance-là, dans le fond, que va prendre, que le féminisme noir va se développer. Le Black Feminism, ça se caractérise par la volonté d'associer ensemble les critiques du sexisme, du racisme et de l'oppression de classe, mais aussi d'élaborer le point de vue spécifique des Afro-Américaines à l'intérieur du mouvement féministe, mais aussi à l'intérieur du mouvement des droits des Noirs. Pourquoi? Pourquoi dans le mouvement des droits des Noirs, les femmes ont senti le besoin, les Afro-Américaines ont senti le besoin de d'amener la question du sexisme sur la table. C'est d'être très présent pour les personnes qui sont un peu familières avec que ce soit... Puis quand on dit le mouvement des droits des Noirs, je fais exprès parce que ça inclut autant la partie plus réformiste, donc tous les gens qui tournaient plus autour du mouvement des droits civiques et de Martin Luther King, qu'à l'autre bout du spectre, les Black Panthers, c'était pas mieux. Il y avait beaucoup de sexisme aussi dans ce groupe dit plus radical et aussi au sein des Black Muslims. Donc le sexisme était partout. Et il y a une fameuse, il y a une phrase assez célèbre qui disait que la place d'une femme noire, militante ou pas, est couchée ou quelques mètres derrière ses frères. Donc, c'est pour ça que les femmes, en tout cas, au niveau du mouvement des droits des Noirs, ont senti la nécessité d'amener la question du sexisme sur la place publique. Pourquoi dans le mouvement féministe américain aussi? Ben, c'est parce que le féminisme y était présent. Il faut se remettre dans le contexte que le féminisme américain est héritier de la fameuse ligne de couleur produite par les systèmes à la fois esclavagistes puis ségrégationnistes. Donc, c'est pour ça que le féminisme noir a émergé, mais ça prend des racines encore plus loin. Comme je vous disais, c'est né dans les années 60-70, mais il faut vraiment remonter pour comprendre aux mobilisations féministes du 19e siècle autour du mouvement abolitionniste, donc les gens qui militaient pour l'abolition de l'esclavage. Pendant cette période-là, les femmes blanches et noires, mais vous comprenez qu'ici on va plus axer sur les Afro-Américaines, donc qui étaient engagées dans cette lutte, ont vraiment appris l'action politique, c'est-à-dire les réunions publiques, la prise de parole, l'élaboration progressive de revendications féministes, tracts, affichages, etc. Puis on dit en fait que c'est de la mobilisation abolitionniste qu'est né le mouvement suffragiste américain. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que ce mouvement-là, qui avait été, dans le fond, vraiment inspiré par les militantes noires, les femmes noires des clubs et des associations noires, ce mouvement-là a été rapidement déchiré par le racisme et les questions raciales. Comment? Je vous donne un exemple. Selon les termes de la féministe Elizabeth C. Stanton, il était inacceptable que les épouses et soyeuses de race anglo-saxonne, donc les Blancs, obtiennent le droit de vote après les Noirs et après les immigrants irlandais. Donc, vous voyez tout de suite que dans cette dénonciation, dans le fond, de dire, ben, les femmes blanches, on devrait avoir le droit de vote avant les Noirs et avant les immigrants irlandais, ben, ça excluait de facto de la catégorie femmes, hein, les femmes de couleur. Donc, on comprend pourquoi elles se sont rapidement pas vraiment senties à l'aise au sein de ce mouvement-là. Puis là, j'y vais vraiment rapidement, mais il y a entre autres Angela Davis, une Afro-Américaine, qui a vraiment fait un historique de toutes les décisions et actions racistes qui a pu traverser l'histoire des organisations féministes aux États-Unis, dans un livre qui s'appelle « Sexe, race et classe », d'ailleurs, très intéressant. Mais bon, pour faire ce cours, les organisations féministes, aux États-Unis, tant pendant le mouvement suffragiste, donc pour le droit de vote des femmes, que par la suite, vont mettre de l'avant une stratégie politique qui consiste à rallier les femmes du Sud aux dépens, dans le fond, des femmes descendantes d'esclaves. Donc, suite à cette expérience-là désastreuse au sein du mouvement suffragiste, des suffragettes, et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui se passait au niveau du mouvement des droits des Noirs, ben on comprend mieux pourquoi les militantes se sont peu à peu rassemblées sur les bases de ces expériences-là de pression et de frustration, puis se sont dit, ben là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, ça, c'est un peu l'historique que je voulais ramener. Si on repart vraiment à 1960-1970, en 1970, date très importante, comme vous voyez, mon fils essaye de se faire entendre, mais j'espère qu'on entend quand même ce que je dis. Donc, l'Alliance des femmes du tiers-monde publie le Manifeste des femmes noires, dans lequel elles vont affirmer l'existence, dans le fond, d'une spécificité de l'oppression dirigée contre les femmes noires. Je vous donne un court exemple, une courte citation, en fait, où elles disent « La femme noire demande une nouvelle gamme de définitions de la femme. Elle demande être reconnue comme une citoyenne, une compagne, une confidente, et non comme une vilaine matriarche ou une auxiliaire pour fabriquer des bébés. » Et on pourrait même rajouter à ça ce que nos compatriotes, dans le fond, de Case Rebelle disaient tout à l'heure, c'est-à-dire tout l'espèce de mythe du matriarcat noir où on dit que les femmes noires, dans le fond, sont lubriques, sont pas pieuses, sont des mauvaises mères, abusives, etc. Donc ça revient ici aussi. Et c'était dénoncé dans le Manifeste des femmes noires, je vous rappelle, qui a été publié en 1970. et où, dans le fond, les femmes dénonçaient aussi bien le racisme que le capitalisme, donc aussi la perspective de classe qui arrivait. En 1975, le Combahee River Collective est très intéressant, on va en parler un petit peu plus longtemps, parce que c'est ça, c'est un des groupes qui a été les plus actifs pendant la période du féminisme noir des années 70. C'est un groupe féministe lesbien et radical qui a été fondé à Boston par des militantes autant du mouvement des droits civiques, du Black Nationalism que du Black Panther Party. Donc, on pense à Barbara Smith, Sherry Clark et Gloria Aska Hull. Donc, ils sont partis d'une section locale au départ du National Black Feminist Organization, une organisation, en fait, qui a eu une très courte durée de vie, 3 ans, avant que le groupe se dissout, mais ils ont quand même eu le temps de mettre au monde, entre guillemets, la section locale du Combahee River Collective, qui, lui, a été très actif. Le manifeste qu'elles ont publié, ces femmes-là, il est très intéressant parce qu'il fait, dans le fond, ça fait une boucle ou un clin d'œil à ma présentation parce qu'il s'ouvre sur une référence aux grandes figures féminines du mouvement abolitionniste, justement. Donc, elles veulent vraiment inscrire clairement la genèse du féminisme noir dans l'histoire des femmes esclaves, anciennes esclaves ou descendantes d'esclaves. Donc, elles vont parler de Sojourner Truth, Harriet Tubman, Ida B. Wells Barnett, donc des femmes qui ont vraiment milité activement puis qui se sont souvent mises en danger, même entre autres en participant au réseau au réseau clandestin de trains qui permettait le Underground Railroad, voilà, un réseau clandestin qui organisait la fuite des esclaves des États du Sud vers le Nord. Et on comprend que souvent dans la culture populaire, on voit plus des blancs associés à ce réseau clandestin-là. Mais ça, encore une fois, ça nous ramène à qui écrit l'histoire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes et d'hommes noirs qui étaient impliqués dans ce réseau-là. Puis on comprend que les conséquences, s'ils se faisaient prendre, étaient pas mal plus graves pour eux. Donc ça, c'est quelque chose que le collectif met de l'avant dans son manifeste. C'est un collectif très intéressant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, féministe, lesbien, mais ici, on peut vraiment voir la spécificité de l'analyse du féminisme noir. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance dans leur analyse du croisement, donc de l'intersectionnalité entre la question de genre, de race, entre guillemets, évidemment, et de classe sociale. Parce que ce collectif-là, les féministes disaient, qui militaient, disaient, nous, on n'est pas d'accord avec le séparatisme lesbien à cause de notre expérience du racisme, justement. C'est-à-dire que on pense pas qu'on peut seulement fonder notre analyse sur la question du genre ou de l'orientation sexuelle, ça exclut les autres formes de domination. Donc, elle rejetait vraiment, ces femmes-là, toute essentialisation de la femme, qui en fait une figure éternelle et universelle. Et pour elle, c'était vraiment important, donc, de croiser l'analyse des différentes formes de domination. Je vais accélérer un petit peu. Peut-être la dernière chose que je pourrais vous dire, bon, on va laisser de côté le Combahee River Collective pour dire que, peut-être terminer avec l'intersectionnalité, justement, qui est maintenant, dans le fond, un concept très important dans la troisième vague féministe. On en parle souvent. Ben ça, c'est un concept qui a été développé, en fait, par les féministes noires. Donc, c'est important de rendre à César ce qui revient à César. Et deux points que je voulais ramener avant de terminer. Un exemple de comment le sexisme peut être vécu différemment par les blanches ou les noirs. Angela Davis en a parlé, comme je disais tout à l'heure, dans son livre « Women, Race and Class », en disant que, en soulignant que les Afro-Américaines, elles, étaient victimes des programmes de stérilisation contraintes, tandis que les femmes blanches étaient contraintes à des grossesses successives non désirées et aux avortements clandestins. Donc, c'est une manière de montrer que, oui, le sexisme est vécu par les femmes, mais de manière différente. Et je voulais vous parler d'un autre livre, mais j'aurais vraiment pas le temps, je crois. Alors, on va passer à la musique.
On va écouter tout de suite Nawal, une chanson qui s'appelle Danzi, puis la traduction en anglais c'est Woman's Blues.
Ariti zalomru nyorani mavumaba nyorani mavukundi osa itilele mwana Baho mru jitahidi ata hezi unamaji Yazipie abahuwe yanike mwini daho Ngulono ujirogo za shaka hide mwini zinu Bangulona ujirongo zakaide mwinizinu Vanunguni fwari onjwa ulala hunu Harakizo rohesha mwakonze mzusi Sabwezi oza haja tina hindu na zula Tipara tizi hotea tizi meosinde Tizi piha zishelewa shazishirwa buho nyunguni Vanube jaka jasafiri nalinda ze jahazi Vanuka jenda bambao nalindo warumwa Kajenda ndude mtsangasha na lila narua Shaba nungu ni wono nyebe ihazwa onajua Nguto ni wona nyebe ihazwa onajosi Hama gombela mahusha lindema msiruntini Jano wana mji wala utinza pao Uondru sobe nyachenje ngulilo bele ya mwe Sobe ngumtiti usha nyatronga ngumwa msu Kajazubo walezisha ye ulelwa nironeza
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi soit-elle. Ce soir, on vous parle du black feminism. Là, on vient d'entendre une chanson de la chanteuse comorienne Nawal. Puis, cette chanson s'intitulait Danzi. Donc, d'ailleurs, Nawal, que je place à chaque fois dans une émission parce que c'est la première chanteuse des Comores à être montée sur scène parce que c'était réservé aux hommes jusqu'avant. Puis, elle a autoproduit deux albums qui sont vraiment très, très bons. Donc, voilà.
Respect.
Yeah.
Donc, c'est toujours Hélène, d'ailleurs, le micro. Je vais vous parler en 20 secondes d'un livre très important dans tout ce mouvement-là du black féminisme. Et ça s'appelle « This Bridge Called My Back, Writing by Radical Women of Color » qui a été publié aux éditions Kitchen Table Women of Color Press, qui était la première maison d'édition fondée par des femmes de couleur pour des femmes de couleur. Pourquoi c'est important de citer cette anthologie d'essais et de poèmes écrits par des femmes chicanas, sino-américaines et autochtones? C'est parce qu'en fait, ça nous permet de comprendre que le black feminism, c'était pas limité aux femmes afro-américaines, encore aujourd'hui, mais que justement, ça incluait un spectre beaucoup plus large. Donc, dans ce livre, cet essai, on parle à la fois du racisme dans l'enfance, de l'intersectionnalité des oppressions, du racisme dans le mouvement féministe, et évidemment, le dernier chapitre traite d'espoir et de projets d'avenir antiracistes. Et antisexiste.
Bon programme. Mais d'ailleurs, pour continuer avec cette idée-là, justement, que le black feminism, c'est pas seulement les femmes noires qui l'ont développé puis qui continuent à l'utiliser. Il y a un collectif qui est très actif aux États-Unis qui s'appelle Insight Women of Color Against Violence. Donc, qui est un collectif de femmes de couleur. Et puis qui est pas mal plus gros que ce qu'on peut comprendre parfois par l'utilisation du terme collectif. Là, c'est vraiment une organisation qui est active dans plusieurs villes des États-Unis, puis qui a fait beaucoup de projets super intéressants dans les dernières années et édité et publié plusieurs livres. Et puis un des documents qu'ils ont publié qui a eu une très bonne visibilité, c'est une déclaration qu'ils ont fait en commun avec un autre groupe qui s'appelle Critical Resistance, qui est un groupe de personnes qui travaillent pour l'abolition du système des prisons. Donc que j'arrive jamais à bien traduire, là, mais le système carcéro-industriel. C'est bien ça, Marie?
Oui, on va le comprendre comme ça.
Et puis, Insight travaille pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Critical Resistance essaie d'en venir à l'abolition des prisons. Et puis, ensemble, ils se sont mis à travailler sur les problèmes qu'il y avait dans l'absence de lien entre ces deux grands mouvements-là. Donc, ils commencent leur déclaration avec, dans le fond, les différentes critiques qu'ils font, d'une part, au mouvement des femmes qui travaillent pour mettre fin à la violence faite aux femmes, mais qui souvent n'encadrent pas leur discours avec l'idée de mettre fin à la violence, mais qui font surtout de l'intervention. Et puis, donc, ça, c'est une des critiques que ces groupes-là amènent au mouvement contre la violence faite aux femmes. Donc, rapidement, les différents points de critique, c'est que, premièrement, le système actuel éradique pas la violence faite aux femmes parce que le mouvement fait beaucoup appel au système carcéral puis au système de justice criminelle pour régler les problèmes. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a une plus grande criminalisation qui a été demandée pour tenter de combattre la violence faite aux femmes, mais dans les faits, bon, ça fait que les femmes ont souvent plus peur de se défendre face à leurs agresseurs. Donc, le nombre de meurtres commis par des femmes en légitime défense quand elles étaient dans des situations de violence conjugale a beaucoup diminué. Par contre, le nombre d'hommes qui tuent leurs conjointes a pas diminué. Donc, les meurtres de femmes continuent à se maintenir à un taux à peu près constant, tandis que les meurtres d'hommes, bon, qui sont pas souhaitables, on s'entend, là, mais ceux-là ont diminué drastiquement. Les femmes ont peur des représailles de la justice beaucoup plus que les hommes. Ensuite, cette façon de fonctionner-là, donc de s'appuyer sur le système criminel, ça criminalise aussi beaucoup de femmes, particulièrement les femmes qui sont déjà marginalisées, comme les femmes immigrantes. Donc, on a entendu parler de beaucoup de cas où les femmes qui faisaient appel à la police dans des situations de violence conjugale se retrouvaient à se faire arrêter elles-mêmes, puis, par exemple, à être déportées parce que leur statut était pas légal en termes d'immigration. Donc, ensuite, c'est sûr qu'il y a un détournement des fonds. Donc, plus on construit de prisons, plus on met d'énergie et de fonds dans le système carcéral, pardon. Ça fait qu'il y a moins de fonds qui sont mis vers les services qui sont offerts aux femmes et puis vers les efforts pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Ensuite, les prisons, clairement, ça fonctionne pas. Donc, plus d'hommes en prison, ça fait pas qu'il y a moins de femmes qui sont battues. Puis, au contraire, plus de monde en prison en général, ça veut dire plus de femmes en prison, ça veut dire plus de femmes et d'hommes qui subissent de la violence en prison. Donc, comme on le sait, des meurtres, des suicides, des batailles, le contrôle du corps des hommes et des femmes en particulier via les fouilles à nu, puis en général, juste le contrôle des corps et la restriction des libertés en prison. Et ensuite, les efforts qui sont faits pour mettre fin à la violence en général, à la violence faite aux femmes en général, sont de plus en plus institutionnalisées. Ça fait qu'il y a moins de pouvoir qui est laissé aux initiatives qui sont plus basées sur l'organisation collective des femmes à la base. Donc, ensuite, la déclaration de Insight et de Critical Resistance continue avec quelques problèmes qu'il y a dans le mouvement abolitionniste. Donc, d'une part, que ce mouvement-là a comme pris pour acquis que comme c'est les hommes qui sont majoritairement en prison, c'est nécessairement eux qui sont les premières victimes et puis qu'on devrait surtout se concentrer sur eux quand on fait une critique du système carcéral. Mais donc, selon Insight, les femmes aussi sont victimes de violences étatiques. Donc, c'est important de les considérer aussi dans la critique qu'on fait du système carcéral. Ensuite, il n'y a pas d'alternatives qui sont vraiment adéquates pour combattre la violence faite aux femmes. Donc, on parle beaucoup de décriminalisation, mais on n'offre pas beaucoup d'alternatives pour que les femmes qui sont victimes de violences puissent se sentir en sécurité et sentir qu'il y a quand même une responsabilité qui est prise envers elles. Ensuite, le mouvement abolitionniste explique encore et encore avec raison que les violeurs, les tueurs en série qui nous font le plus peur et qui sont amenés beaucoup pour défendre le système des prisons sont en fait un tout petit pourcentage des personnes qui sont réellement en prison. Et puis donc, c'est très vrai, et puis c'est facile de comprendre que pour la grande majorité des personnes qui sont incarcérées, c'est probablement pas la bonne solution parce que c'est des gens qui ont été reconnus coupables de crimes non violents. Puis aux États-Unis en particulier, de plus en plus, c'est des crimes qui sont reliés aux drogues et qui ont rien à faire dans des prisons. Par contre, on n'offre pas d'alternatives très convaincantes pour qu'est-ce qu'on fait avec ce tout petit nombre-là qui reste. Parce que si on veut avoir une critique abolitionniste qui se tient, bon, on sort tout le monde des prisons, qu'est-ce qu'on fait avec cette minorité-là qui, pour beaucoup, quand même, pose problème parce qu'on veut pas non plus avoir à gérer dans nos communautés. C'est pas une question qui est évidente à régler. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui est à régler. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de critiques de la violence qui est faite aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles dans le système carcéral, puis dans le système de justice ou d'injustice criminelle. Ensuite, finalement, bon, on n'offre pas beaucoup de support et de sécurité pour les femmes qui sont victimes de violence. Donc, tout ça pour dire, Insight et Critical Resistance demandent beaucoup de choses au mouvement pour la justice sociale. Ils disent d'abord qu'il faut développer des réponses à la violence qui sont vraiment basées dans les communautés. Il faut arrêter de combattre soit la violence étatique, soit la violence interpersonnelle, puis vraiment mixer ces deux mouvements-là pour qu'on réussisse à développer des stratégies qui vont vraiment combattre la violence étatique, puis la violence interpersonnelle ensemble, puis voir les connexions qu'il y a entre ces deux formes de violence-là. Ensuite, il faut développer une analyse et des stratégies pour mettre fin à la violence, puis qui ne va pas juste isoler les actes de violence eux-mêmes, mais vraiment les mettre dans leur contexte plus large. Donc, encore là, ça vient faire le lien entre les différentes formes de violence. Ensuite, s'arranger pour que les femmes de couleur soient au centre de l'analyse et des stratégies qui sont développées. Finalement, bon, avoir vraiment des stratégies qui soient plus globales et holistiques. C'est un terme qui... All-encompassing, disent-ils et elles. Donc, voilà, on va peut-être continuer un petit peu en musique pour couper tout ce contenu qu'on n'arrête pas de
vous balancer dans les oreilles.
Exactement.
On va continuer en musique avec Kazé, donc notre chanteuse de hip-hop préférée. Non, je blague, en tout cas une des miennes. La chanson s'appelle « Créature ratée » et Kazé, c'est une chanteuse d'origine martiniquaise qui vit à Paris, je pense. Puis ce vidéoclip-là, si vous pouvez le regarder, « Créature ratée » est vraiment très très bon. Mais en tout cas, pour l'instant, écoutez ça.
Créature. disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce volontiers, j'angoisse les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence, en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée.
Vous écoutez toujours Ainsi squat-t-elle sur les ondes de CKIA FM. Donc aujourd'hui, on a parlé de Black Feminism, puis on voulait terminer avec un petit peu la contrepartie des problèmes de racisme. C'est évidemment qu'on a des privilèges en tant que personne blanche, mais ça a été quelque chose qui a été beaucoup caché. En fait, une des principales caractéristiques des privilèges, que ce soit les privilèges dont jouissent les hommes ou les personnes blanches, c'est qu'on nous apprend à les ignorer et à pas nous rendre compte qu'on en bénéficie.
À faire comme s'ils étaient évidents et naturels. Exact.
Tout à fait. Puis donc, il y a une auteure qui s'appelle Peggy McIntosh qui était... je sais pas pourquoi ça fait rire tout le monde, mais qui est en train donc de discuter du problème qu'elle avait avec les hommes dans son département de Women's Studies qui voulaient pas admettre qu'ils avaient des privilèges. Et puis, à un moment donné, elle a développé sa réflexion, elle est allée un peu plus loin et elle s'est dit, je vais essayer de faire une liste, voir, moi, des privilèges que j'ai comme personne blanche. Et puis, elle a fait une liste qui a été éventuellement, qui est devenue une conférence, puis un essai. Donc, dans la version que j'ai, il y a 46 points, mais bon, c'est toujours en développement, ce genre de liste-là. Mais j'en ai souligné quelques-uns que je trouve particulièrement intéressants puis qui m'ont amené, moi, à réfléchir plus que d'autres, là, parce qu'ils s'adaptaient plus au contexte québécois ou qu'ils étaient moins spécifiques à son contexte spécifique à elle, donc de prof et tout ça. Donc elle explique, je peux aller magasiner toute seule sans me faire harasser par des détectives et des personnes dans les magasins qui recherchent des voleurs et des voleuses à l'étalage. Je peux allumer la télévision ou ouvrir le journal et voir des personnes de mon propre groupe racial qui sont représentées de manière positive. Quand on me parle de mon héritage national ou de la civilisation occidentale, je vois des images ou je lis des textes par et pour des personnes qui ont la même couleur que moi et qui sont présentées comme étant les responsables de notre grande civilisation. Ensuite, je peux être sûre que mes enfants vont avoir accès à des livres, à des poupées, à des jeux, à des cours qui vont mettre en vedette, si on veut, des personnes de leur propre groupe racial. Si je veux, je vais probablement pouvoir trouver un éditeur pour publier mon texte sur les privilèges des personnes blanches, ce qui est en effet le cas. Ensuite, elle dit, bon, je peux parler la bouche pleine ou sentir mauvais ou arriver en retard et ça sera jamais mis sur le dos de mon groupe racial. On me demande jamais de parler pour toutes les personnes qui appartiennent à mon groupe racial. Et puis, aussi, une dernière chose que je trouvais très intéressante, c'est que si elle considère que si elle prend position en disant qu'une question est ou pas un problème de racisme, qu'on la prend au sérieux sans dire que qu'elle dit ça juste à cause de sa race. Donc, on ne lui dit jamais que c'est parce que tu es blanche que tu penses que ça, c'est du racisme. Elle a de la crédibilité sur ce point-là. C'est vraiment tout le temps qu'on a, malheureusement.
Merci beaucoup, Tiffaine, Hélène, pour cette émission. Et puis, on vous invite quand même ce soir à poursuivre une réflexion à la JT, si vous voulez, une conférence sur la prostitution masculine, ou à aller aussi au Salon du Livre Anarchiste de Montréal cette fin de semaine, samedi et dimanche, deux journées. Donc, vous trouverez les informations en googlisant. Et puis, c'est ça, on vous souhaite une belle soirée, on vous laisse avec Cultivons Notre Hip-Hop, et à la prochaine.
À la prochaine.